Malou Musique, quand la musique raconte nos vies.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans cette seconde édition de mon émission Malou Musique, où les chemins de la musique croisent ceux des artistes qui la font vivre, vibrer et rayonner bien au-delà des frontières. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage entre Marseille et Sidi Bel Abbès, entre mémoire et engagement, à travers le portrait d'un musicien hors norme, Jamel Ref Eddin. Notre rencontre a eu lieu lors d'une performance musicale poignante avec l'un de ses groupes Rai Roots, un hommage vibrant à Ahmed Zerghi, ce pionnier du Rai que Jamel considère comme un père spirituel et dont il se dit aujourd'hui le justicier, le gardien du feu sacré. Artiste complet, musicien, chanteur, dessinateur, peintre, dandy, c'est aussi un homme d'une grande humilité, généreux dans son art comme dans sa parole. À travers sa voix, ses gestes, ses mélodies, il rend hommage à une culture, à une histoire, à une lutte. Qui est Jamel Ref?
Oui, question quand même difficile. Parce que là, j'ai toujours eu du mal à me présenter, mais je vais utiliser quand même le schéma le plus simple, de commencer par mon nom, Jamel Ref. Je viens d'Algérie, je viens de Sidi Bel Abbès, une petite ville, charmante ville d'ailleurs, dans l'Oranie, à 80 km de rang, à une heure de route à peu près. Installé en France depuis 2006, désinstallé en 2015, je veux dire désinstallé, c'est le mot que j'utilise parce que j'ai quitté la France pour revenir en Algérie, définitivement, et pour dire que le mot définitif n'a pas pris toute sa place, je suis revenu en 2020 à Marseille.
Très bien, et Marseille, donc 2020, c'est ta ville d'attache, et pour revenir à ta ville originaire d'Algérie, c'est la même ville, me semble-t-il, que Ahmed Zerghi, c'est ça?
Tout à fait. Sidi Bel Abbès, c'est une petite ville. C'est une ville typiquement coloniale, ce qu'on appelle les villes coloniales, qui a été construite par les Français. Et la première pierre d'ailleurs de construction, c'est l'édifice du quartier général de la Légion étrangère. Et d'ailleurs, le fief de la Légion étrangère se trouvait à Sidi Bel Abbès, mais pas en France d'ailleurs. Après l'indépendance. Le jour de l'indépendance, ils ont récupéré ce siège-là pour le retransférer en France, pour devenir le siège principal, on va dire. Donc c'est une ville, une garnison militaire au départ, une ville typiquement coloniale. On l'appelait le Petit Paris parce que c'est un schéma miniature de Paris, parce qu'il y a le Paris divisé par la Seine, rive gauche, rive droite. Bel Abbès est divisé par ce qu'on appelle le Oued Mekana. Rive gauche, rive droite. Architecture coloniale, un peu pas très, on dirait, on est un peu sur des architectures qu'on trouve sur Neuilly-sur-Seine ou sur des villes typiquement de la région parisienne.
D'accord. Je suppose que Haussmann est passé par là.
Bien sûr. Parce qu'au fait, ça appartenait aux riches colons. Donc ils ont certainement utilisé les meilleurs matériaux de construction, les meilleurs plans d'architecture, et c'est une histoire d'argent, voilà.
Une histoire d'argent, une histoire d'amour entre la France et l'Algérie, si je puis dire.
Amour entre la populace, entre les populations, peut-être oui, mais c'est quand même, je n'aimerais pas revenir un peu sur ce sujet parce que c'est un sujet qui fâche.
C'est pas le sujet, hein.
Non, voilà, voilà, c'est pas le sujet, mais en tout cas, ça reste quand même un passé colonial douloureux. Et je pense qu'il y a cette histoire d'amour, bien sûr, entre la France et l'Algérie. Il y a nous, la France qu'on aime, c'est la France littéraire, c'est la France artistique, c'est la France gastronomique, et c'est la France humaine, avant tout. Tu vois, donc, on arrive quand même à faire la part des choses, et voilà.
Paname, on t'a chanté sur tous les tons. Il y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de quoi donc. Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau que je veux baiser comme il faut, comme savent baiser les gigolos. Paname, range tes morlous, range tes bistrots, range tes pépés, range tes ballots, range tes poulets, range tes autos. Paname, et viens m'aimer comme autrefois, la nuit surtout quand toi et moi, on marchait vers on ne savait quoi.
Voilà, je trouve qu'il y a une ébullition marseillaise. Au niveau du rail, il se passe beaucoup de choses.
En fait, c'est très simple. Moi, quand j'ai commencé à faire la musique très jeune, comme tout le monde, on a commencé par le rock, par les classiques, par les Beatles, par aussi la chanson française. C'est pour revenir à cette histoire d'amour entre l'Algérie et la France. Même malgré ce passé colonial, mais nos parents écoutaient du Adamo, de Aznavour, du Ferrat, du Ferré, et tout ce que s'écoutait dans le temps comme musique française. Et nous, on a grandi avec ça. Ajoutant à cela la musique orientale, les classiques orientales, Om Kaltoum, Farid, Mohamed Abdelwahab, la musique marocaine.
Farid Al-Atrash.
Farid Al-Atrash, bien sûr.
Fayrouz.
Fayrouz, qui est arrivé plus tard, mais oui, mais Fayrouz aussi. La musique marocaine, avec Abdelwahab Doukali, Abdelhadi Belkhayat, Ibrahim Al-Alami, et une panoplie de grands artistes, et la musique algérienne. Les classiques algériens de Ahmed Ouahbib, Lawi Lahouari, Deriassa, il y avait un mélange. Et nous, on écoutait un peu ça malgré nous, parce qu'on était enfants, on ne comprenait pas vraiment grand-chose et ça ne nous parlait pas beaucoup. Bah, on n'était pas encore préparé, l'oreille n'était pas encore préparée pour ces grands classiques et tout. Mais on aimait le rail à l'époque. Moi, mon époque, c'est Michael Jackson, c'est Stevie Wonder, et le rock, le côté rock. Donc j'ai commencé à faire la musique en écoutant ça. Mais je commençais vite à fréquenter des artistes et à comprendre un peu la musique maghrébine, la musique algérienne, le rail qui était en pleine effervescence des années 80.
En Algérie.
En Algérie, bien sûr. C'est l'âge d'or d'ailleurs. L'âge d'or, donc on écoutait ça dans les mariages, dans les fêtes et ça faisait danser, mais j'essayais de comprendre. C'est resté, j'ai continué à faire du rock, j'ai abandonné quelque part la musique. C'est-à-dire, je n'avais pas prévu une carrière de musicien. J'ai entamé une vie professionnelle, une vie normale, mais j'ai continué à faire de la musique en parallèle.
Tu es guitariste ?
Je suis guitariste, oui. Je suis principalement guitariste. Et après, quelques instruments traditionnels comme la mandole, le oud, oui, voilà. un peu de piano. Voilà, un peu de touche à tout, mais plus essentiellement guitariste, ou principalement guitariste.
Aman, 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 aman. 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 Aman, 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 aman. Aman, aman, aman.
Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai commencé à travailler un peu sur le répertoire d'Ahmed Zalghi. Pourquoi Ahmed Zalghi ? Parce qu'il y a eu un peu, avant l'arrivée de cette effervescence, on va dire, concernant le rail, l'inscription à l'UNESCO et tout, j'avais éprouvé le besoin de quand même de rendre justice à un artiste que j'ai trouvé qui a tout fait, mais que personne n'a parlé de lui. C'est-à-dire comme s'il y a un côté maudit, je ne sais pas d'où il vient, et que tout a été effacé. Peut-être qu'il n'y a pas une intention réelle, une volonté réelle de l'effacer. Il n'y a pas ça, parce que je n'ai pas décelé ça. Mais la vie a fait que tout ce qui était propre à lui a tendance à disparaître vite, même au sein de son entourage le plus proche. C'est-à-dire, sa musique, elle n'a pas quitté Sidi Bel Abbès, on va dire. C'est-à-dire, même pour que ça soit connu à Oran, pour avoir, je sais pas, à une heure de route, on n'avait pas de traces, on n'avait plus de traces. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Alors que je considère comme l'architecte principal de cette musique rail. C'est la genèse même de cette musique rail. Bien sûr, il n'est pas le seul. Ça s'est fait dans un environnement avec d'autres artistes et tout. Mais on ne peut pas parler de... Je sais pas, on peut pas parler de la chanson française et ne pas parler de Brel, par exemple. Ou ne pas parler de Piaf. Ben, c'est pareil. On parle de la musique rail, on ne parle pas de Zalghi. Jusqu'à maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne parle pas de lui. J'étais en train de feuilleter des livres, j'étais en train de voir des documentaires, j'étais en train de voir... Personne n'a parlé de lui. Donc je me suis dit, je me positionne avant les musiciens. J'ai pris quand même, j'étais dans la peau du justicier, au fait. Donc je me suis dit, il va falloir jouer sa musique, la comprendre, et essayer de la diffuser pour voir l'impact que ça donne. Est-ce que je suis le seul à être amoureux de cette musique et de dire c'est quand même de la vraie musique et du vrai raï, ou est-ce que le public va l'intercepter de la même manière que moi? La raison pour laquelle j'avais monté ce projet qui s'appelle Tribute à Ahmed Zalgué Raï Roots, parce que je trouve que c'est les racines du raï. Et j'ai dit à Ahmed Zalgué, je ne voulais pas mettre mon nom parce que ça ne servait à rien, ce n'est pas mon nom d'artiste en fait, parce que en fait, j'ai reproduit le travail, j'ai dépoussiéré le travail de quelqu'un d'autre pour une remise en valeur à nouveau et voir et le faire connaître et peut-être rendre à travers ce que je fais, rendre justice quelque part, ne serait-ce que morale, à cet artiste qui est resté quand même méconnu au grand public, alors qu'il a tout fait pour installer ce qu'on appelle aujourd'hui, en tout cas les notions de base de cette musique qu'on appelle aujourd'hui le raï. Ahmed Zalgué, il est mort en 83, à l'âge de 34 ans, dans un accident de voiture.
C'est tragique.
C'est tragique, mais ce qui est plus tragique et que je dis toujours, d'ailleurs, il a subi deux morts. Je dis la première, c'est l'accident tragique qu'il a eu, et la deuxième, c'est la mort la plus atroce, c'est l'oubli et la non-reconnaissance. Et ça, c'est encore plus compliqué. Il est mort à l'âge de 34 ans, il a laissé 14 albums derrière lui.
14 albums.
Dans des morceaux phares qui ont été reprises par Khaled, par plusieurs chanteurs. Et qui ont,
par Khaled, lequel?
Bien sûr. Cheb Abet Bladi, par exemple.
Ah oui.
Ayan Soddo, il y en a une vingtaine.
Très bien.
Une vingtaine. Qui ont été chantés ces morceaux par tous les chanteurs du raï, même ceux qui n'ont pas volé les textes et qui n'ont pas repris les textes, ils ont repris les mélodies, ils ont repris la façon de faire. En fait, il a créé cette recette qui a fait que par la suite ça a donné ce qu'on appelle le raï des années 80. L'univers musical, il n'y a pas que Ahmed Zalgué, mais je suis resté concentré pendant, là ça va peut-être faire la quatrième année que je suis sur ce projet là parce que même comme je dis, il y a un côté toujours maudit qui suit cette histoire. Même en le faisant ici, j'arrive pas vraiment à le diffuser comme je veux, j'arrive pas à le faire tourner comme je veux parce que j'ai pas de tourneur, parce que voilà, je suis pas dans la machine, mais en même temps je trouve qu'il y a encore qu'il faut qu'il tourne ce projet encore et qu'on encore le faire connaître et tout, pour atteindre cet objectif qui est justement faire connaître Ahmed Zalgué et le sortir un peu de cette zone de l'oubli et de peut-être ramener quelque part une reconnaissance, ne serait-ce que morale.
Très bien. Et tu peux parler un peu des compagnons de musique qui te suivent dans ce projet?
Dans ce projet, quand je l'ai monté, avec les éléments de l'Orchestre National de Barbès.
L'OMB.
L'OMB, avec les fameux, ce qu'ils appellent les nobles, moi je les appelle les nobles, ça leur fait rire, mais c'est comme ça, les nobles de la musique maghrébine et algérienne. Parce que l'OMB, on est tous toujours fans. Moi quand j'ai commencé la musique, comme vous dites l'OMB, c'est pareil, si vous me dites Dire Straits, c'est pareil. On vient du même pays et tout, donc c'est une grandeur déjà. Et ce qui m'a touché le plus, c'est qu'ils étaient très, très ouverts à ce projet-là. Ils l'ont fait avec amour. C'est pas parce que j'ai choisi les meilleurs musiciens, mais j'ai choisi les meilleurs, ceux qui voulaient aussi rendre justice à Ahmed Zalgué et faire connaître ce projet. remporte Youssef Boukella, Mahdi Asker, que je salue d'ailleurs à l'occasion, Mamoun Dahal, Mohamed Mendy, qui était percussionniste, qui a joué longtemps avec Mami, presque 20 ans avec Mami, aussi les dans ce projet. Et bien évidemment, mon frère et mon ami Kader Denednia, qui est de Marseille. C'est un musicien que j'ai connu ici à Marseille, qui est devenu un ami, et avec lequel on a fait aussi un parcours. On a monté le groupe Zahtar marseillais et le
Café Noailles. Le groupe Zahtar et le Café Noailles, bien sûr, bien sûr.
Donc ça, encore une fois, je pense que ce bonhomme, même s'il y a, comme je dis, dans son histoire, il y a ce côté maudit, mais lui, dans son esprit et tout, je pense qu'il a toujours été rassembleur. Donc ça a rassemblé quand même plein d'artistes autour de sa mémoire. Et c'est peut-être... je suis en train de réfléchir parce qu'on n'a pas en archive, ils n'ont pas gardé les maquettes d'enregistrement, les vraies bandes son d'enregistrement. Donc ça n'existe pas. Il n'y a pas un son propre de la musique de Zahri. On trouve que dans des cassettes qui ont existé dans le temps et qui ne sont pas du tout bien conservées. Donc on n'a pas des vrais enregistrements. Donc le but, c'était de quand même de réenregistrer la musique de Zahri dans un vrai studio avec des vrais moyens.
La plaine, au cœur de Marseille, est bien plus qu'un simple quartier. C'est un état d'esprit, un patchwork vivant où s'entrelacent les voix, les luttes, les cultures et surtout les musiques. Entre friperies, bouquinistes, terrasses de cafés ensoleillés, bars militants, fresques murales et scènes ouvertes, la plaine incarne une certaine idée de la ville, libre, rebelle, créative, profondément métissée. La plaine, ce n'est pas un quartier tendance au sens banal du terme. C'est un lieu résolument alternatif, socialement engagé, où la musique sert souvent de porte-voix des luttes contre la gentrification, pour la justice sociale, pour le droit à la différence. Ici, l'art est politique. La fête est populaire et la musique est un moyen d'exister pleinement au-delà des frontières. Les artistes marseillais et marseillaises qui s'inscrivent dans cette mouvance incarnent une ville qui refuse d'être figée, qui se réinvente en permanence en puisant dans ses racines pour inventer de nouveaux langages.
Petite tribu qui gravit, mange et boit, dort, danse et bouge. Dans un village, dans la grande ville, un quartier, la plaine, sans frontières, Marseille. Sans frontières, ouverte aux différences comme une putrue cénacle, Marseille. Port ouvert sur le monde. Comme la meilleure pratique de résistance au fascisme.
On le voit, ya, 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 ya. On le vit. On le voit, ya, 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 ya. On le vit.
On le vit.
On le voit, ya, 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 ya. On le vit. On le voit, ya, 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 ya. On le
Vous êtes le maître des lieux ?
Non, je suis pas le maître des lieux, je fais juste les ouvertures, moi. Tous les matins, 6 jours sur 7, 9h-13h.
D'accord, donc vous êtes quand même, vous maîtrisez l'ouverture, phase quand même assez importante pour mon café. Donc c'est un bar culturel, c'est ça ?
C'est un ?
Bar culturel ?
Effectivement, ouais, y a pas mal d'organisations culturelles, surtout pour la Palestine, mon patron lui est palestinien.
Tu m'as donné rendez-vous chez mon café. C'est un endroit où tu aimes venir
Oui, mon café, j'aime venir.
À la plaine, je précise, à la plaine à Marseille.
Je ne suis pas très loin.
Ouais.
Je suis pas très loin, moi je viens de la rue de l'Arc. Donc,
La rue de l'Arc, je connais bien la rue de l'Arc.
Je ne suis pas encore allé passer la République. Hein.
Oui, donc tu habites dans le quartier.
Moi j'habite dans le quartier, pas très loin, je viens de la rue de l'Arc. Et on salue la rue de l'Arc, il se passe des choses.
Il se passe beaucoup de choses. Bah, d'ailleurs, dans mon premier épisode, on passe dans la rue de l'Arc et notamment Osas, que je salue au passage.
Osas, le Caloum.
L'épicerie créole.
L'épicerie créole, le Bouillon de Noailles, qui font un super travail aussi, une association qui fait un super travail et qui rassemble les gens autour des habitudes culinaires et aussi de... Ils font plein de choses, travaillent avec les enfants et... Moi, je trouve qu'il faut un travail extraordinaire dans la
société
pour revenir à mon café.
Voilà, à mon café.
Et quand je suis arrivé à Marseille, je fréquentais souvent un endroit qui s'appelait La Merveilleuse, que vous connaissez bien sûr, Notre-Dame du Mans, et qui appartenait à justement au même propriétaire qui a ouvert le Mon Café. C'est Bessel qui est mon ami. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Bessel. Et quand il a quitté La Merveilleuse, il a ouvert Mon Café. L'attachement amical a été transféré vers mon café. Voilà. Et puis j'aime bien aussi le truc de dire mon café. Tu vois? Parce que quand on appelle généralement les gens qui ne connaissent pas, qui ne viennent pas de Marseille, tout, qui nous dit viens, on va boire un café dans mon café, ils pensent que c'est mon café à moi, mais voilà, c'est pas mon café à moi. Ouais, mais c'est le café d'un ami.
C'est le café d'un ami, le café de tout le monde.
Et puis il y a une bonne ambiance, c'est apaisant. C'est pas le café brouillon. C'est un café, on peut s'installer, discuter, méditer. Et puis on a la vue sur la plaine, on a la vue de superviseur, on va dire.
C'est vrai que c'est le
côté qui permet de superviser, de voir ce qui se passe autour de nous. Ne serait-ce que le mouvement des gens, les va-et-vient.
Là, je vois que tu es en train de dessiner et j'ai découvert aussi que tu peignais, tu illustrais aussi. Est-ce que tu as envie d'en parler?
En fait, ça c'est au début, ça a commencé, moi je considère toujours ça comme une manie, c'est de faire du gribouillage et d'être en contact, le contact papier-stylo en fait. J'ai pas fait de beaux-arts, j'ai pas de technique, mais je sais que ce que je fais, il plaît déjà aux autres. Et moi, ça me plaît et ça me déconnecte quand je commence à dessiner. Il y a quelque chose qui se passe en moi intérieurement, c'est que ça m'apaise et ça me déconnecte de beaucoup de choses.
C'est un côté méditatif ?
Complètement, c'est un côté méditatif et c'est un côté aussi accompagnateur, on va dire. Le stylo et la feuille, ça m'accompagne tout le temps. Pour un peu lutter contre des fois cette solitude qu'on a. La solitude qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Je sais pas si...
Je comprends. Après moi, je dis souvent, je pense, c'est que on n'est pas seul, on est avec nous-mêmes.
Mais
en fait, c'est une manière de te reconnecter peut-être à toi.
Exactement, parce qu'il y a quand même des formes de solitude. Il y a une solitude qu'on apprivoise et qui est justement cette histoire avec nous-mêmes. Mais il y a une autre solitude qui est faite par les affres du temps, qui est faite par l'agressivité de la vie sociale, par ce qui se passe et tout, et qu'on a envie juste de déconnecter. Et je fais un rapprochement entre moi. Il y a deux trucs que je fais. C'est le dessin, qui me déconnecte complètement, et bizarrement aussi la vaisselle quand je fais la vaisselle. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucun rapport. Je pense que les gens qui ont un lave-vaisselle ne peuvent pas comprendre ça. En tout cas, moi, dans mon cas, faire la vaisselle, c'est le contact avec l'eau.
Me poursuivent partout.
Marseille joue un rôle central dans l'histoire contemporaine du rail. Ville-monde, carrefour migratoire, port d'accueil et de mémoire, Marseille voit fleurir une scène rail vivante, inventive, métissée. C'est ici que des artistes comme Rachid Taha ont fusionné le rail avec le rock et les musiques urbaines, créant des sons puissants, revendicatifs, profondément enracinés dans l'expérience de l'exil, du mélange, de l'identité multiple. C'est une scène à ciel ouvert, un laboratoire vivant, un carrefour des genres et des gens. La ville a accueilli des concerts historiques, des studios, des radios communautaires, des fêtes et des festivals où le rail résonne encore aujourd'hui dans les quartiers populaires et sur les scènes alternatives.
Rail.
Ouais, le quartet Rail.
J'aime beaucoup le nom.
C'était le premier G, c'était il y a un mois. C'était,
J'y étais, voilà. J'ai eu cette chance, tu m'as invité, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir de te voir. Et on l'a fait, le Rail Quartet. J'espère qu'il y a une suite, parce que quand même il s'agit de Sofiane Saïdi, Mahdi Laifaoui, Mahdi Asker, et que chacun est déjà sur ses projets personnels, rajoutant à cela que Mahdi Asker il est avec l'OMB. Donc c'est pas évident de faire équilibrer un peu les calendriers de chacun. C'est très compliqué avec chacun. Je pense que le moins sollicité, c'est bien moi. Je pense que les autres, Sofiane Saïdi, Mahdi Asker et tout, il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de tournées et tout. Donc c'est pas évident. Mais quand même, on y croit, ce projet-là. On essaie de le maintenir. Je pense que ça a plu. Pour un premier jet, il y a de la matière, il y a cette recette. Cette recette qu'on cherchait, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a fait cette résidence-là, pour trouver un peu ces ingrédients. On a trouvé les ingrédients, on a fait un premier jet, il a l'air bien. Maintenant, il faut vraiment le retravailler encore pour donner une renaissance à peut-être bien un album, on ne sait pas. En tout cas, je l'espère.
Alors, en t'écoutant, moi j'aime la musique, et puis après j'ai des musiques que j'affectionne plus, et en l'occurrence la musique funk. Et,
c'est un bon choix.
Ah, merci.
Ah, oui.
Et en étudiant, en retransant un petit peu l'histoire, et même par rapport aux sonorités du funk, donc parce que je pense à votre concert Rail Quartet. Donc Sofiane Saïdi qui a apporté le côté électro, hein.
Oui.
Le rail, en fait, au départ, c'était des orchestres.
Oui.
Ensuite, c'est une musique qui a évolué avec du clavier, de l'électro. Tu confirmes?
Il y a même un côté funk.
Et un côté funk
et disco.
Et qu'on retrouve
dans les années 80.
Merci. Et même jazz.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, le rail a commencé traditionnellement, on va dire. Il a commencé traditionnellement avec déjà les percussions, la scie rythmique, ou la structure rythmique, les percussions, le zargi avec le côté rock, ça a commencé. Et ça suit exactement l'évolution de la musique, comme en Angleterre, le rock qui commence avec le rock, les guitares, l'arrivée des synthés, la guerre entre les synthétiseurs et les guitares. Le synthé prend le dessus, le règne des synthétiseurs dans les années 80 et l'évolution jusqu'à arriver à la musique électronique. Le rail a subi exactement la même chose. Ça a commencé par une guitare et une pédale wah-wah, des instruments à cordes, un peu rock, sonorité rock et tout. Ça s'est stabilisé dans les années 80 par les synthés, l'arrivée des synthés, des sons japonais, des Yamaha, des Roland, des trucs comme ça. Je ne suis pas spécialiste des synthés, mais le synthé analogique de l'époque. Et après, ça a démarré par les sons, les années 2000-2010, ça a commencé à se transformer en sons électroniques, les sons intégrés, les logiciels, et voilà, ça finit encore aujourd'hui, c'est de la musique, c'est du rail électro. Sofiane, ce qu'il fait, c'est vraiment du rail électro, avec son style à lui, parce que quand même dans les textes et tout, ça reste un peu roots, ça reste un peu traditionnel. Mais l'habillage, il est purement électro. Et ça, ce qui était intéressant dans l'histoire, c'est justement de faire un peu, c'est comme ce voyage chronologique. Parce que moi, je viens de cette école du Rail Roots, là, on va dire le point zéro. Et Mahdi Asker, même s'il est plus ancien que moi, il vient aussi de l'école Roots, mais il a représenté un peu la deuxième école des synthés, de l'accordéon des années 80 et tout, jusqu'à Mahdi Laifaoui pareil, jusqu'à arriver au côté électro que Sofiane a apporté. Ça, on voulait créer un peu cette atmosphère de relier les quatre stations, on va dire, dans le temps, et de les mettre, démélanger pour faire une musique en même temps. Je pense, moi, l'idée, c'était l'idée de Mehdi Laïfaoui, d'ailleurs. Et je trouve que l'idée était géniale et que la recette a bien marché, a bien fonctionné. Maintenant, il faut, je pense, retravailler encore dans cet esprit-là pour essayer probablement de faire un album.
Je vous le souhaite, c'est en bonne voie en tout cas, parce que c'était une création d'une durée d'une semaine.
Quatre jours. On avait trois, quatre jours.
Et moi j'ai trouvé que le résultat était quand même assez probant.
En quatre jours, avec beaucoup de tension, c'est normal. Beaucoup de tension et parce que
c'est pas ressenti.
Non, bien sûr, mais voilà, parce qu'il y a aussi sur une base d'amitié, parce qu'on est tous des copains et des amis. Donc on se tape dessus, mais en même temps, ça fait partie du game, ça fait partie de l'amitié, ça fait partie des rapports qu'on a les uns envers les autres.
Une certaine exigence, vous a amené à...
Bien sûr. Ce qui est normal, c'est, je pense qu'il faut passer par cette tension-là pour essayer d'avoir du nectar, un bon travail. Non, je trouve aussi, franchement, moi, j'étais déjà très chaud pour faire ce projet-là, quand Mehdi m'avait proposé ça. Et puis, quand j'ai réécouté le résultat, on n'est jamais satisfait quand on finit un concert, ça c'est normal. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je pense que le jour où on sera satisfait, on arrêtera de faire de la musique. Parce qu'il y a justement ce côté insatisfait, et on doute. Parce que s'il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'art pour moi. Il n'y a pas de l'art certain, de l'art arrogant et tout. En tout cas, ça existe peut-être, mais moi je ne suis pas du tout fan, je ne suis pas dans cette dimension-là. Moi je suis dans l'art qui fait douter, dans l'art qui fait peur, dans l'art qui te rend tout petit. C'est aussi notre façon de voir les choses. Mais bon, ce n'est peut-être pas le sujet, mais...
Non, mais j'entends ce que tu dis, c'est prendre des risques, c'est s'exposer,
Je pense que cette idée du quartet, elle permet justement à ce style quand même de respirer encore une nouvelle fois avec une autre approche.
C'est une autre approche, voilà. Effectivement, une approche toujours par rapport à vos formations respectives.
Exactement.
Ce que vous pouvez apporter, justement, et effectivement, c'est lui redonner un nouveau souffle, une nouvelle vie, un autre style. Moi, c'est ce que je ressens.
C'est exactement ça.
Et à Marseille, c'est vrai que là, quand même, ça fait quelques années, de par toi, les trois formations dans lesquelles tu évolues, ici, d'autres groupes aussi, Benzine,
bien sûr, je voulais en parler aussi.
Il y a aussi Zara Electric. Aussi.
Déjà, il y a le, on va dire, les représentants de la musique maghrébine à Marseille, qui sont nos amis aussi. Je parle de Benzine et de Zara Electric et de Jedba qui font de la musique gnaoui. Et j'espère que je n'oublie pas, en tout cas, et de Ferraj, bien sûr. Donc il y a 4 ou 5 groupes, Zahtar, qui sont représentants, quand même, ils restent les représentants de la musique maghrébine. Je trouve que c'est une chance. Et c'est une chance d'abord parce qu'on se connaît tous et on est des amis quelque part. On est tous des copains. On passe nos fêtes ensemble, on se voit, on connaît nos familles respectivement, on connaît les enfants. Donc c'est vraiment la grande famille. C'est ce que d'ailleurs on avait pensé un jour à faire la Fédération marseillaise de la musique maghrébine ou du rail.
Mais complètement.
Parce qu'il y a tellement d'artistes.
Le monde du rail est à Marseille.
Est à Marseille pour moi.
Mais c'est
il a toujours été à Marseille, je pense que ça n'a pas été délocalisé depuis. Même si la plaque tournante, elle reste peut-être Paris pour les représentations, pour les spectacles et tout. Mais je pense que ça a commencé par Marseille, c'est revenu à Marseille.
Mais le rail,
bien sûr.
Voilà, Marseille a toujours été une terre fertile pour le rail.
Et ce côté méditerranéen.
Et ce côté méditerranéen, ouais.
Parce que le rail, quand il s'est exporté vers la France, il atterrit à Marseille. Tous les grands chanteurs du rail, ils ont commencé à Marseille. Et d'ailleurs, dans toutes les chansons du rail, si on parle de France, rarement on cite une autre ville. Je ne pense pas, on a cité Paris sur une ou deux chansons, mais la ville qui revient plus souvent, c'est Marseille. Dans la fameuse chanson « Seknet Marseille ». Elle habitait Marseille.
Marseille, capitale du rail, alors?
Ah oui, franchement, si on doit jumeler, c'est Marseille, bien sûr. Ça, il n'y a pas photo, ça. Voilà, j'ai cité certains groupes, j'ai cité Benzine aussi, qui font dans l'esprit rail. Même si les autres, Zahar ou Ferraj, c'est un esprit rock, la musique maghrébine. Mais Benzine reste quand même un groupe qui fait du rail, principalement. Et du rail roots aussi, quelque part, parce qu'il y a des sons de Gasba, il y a des sons de la flûte roseau, tout. Ils apportent une couleur aussi très, très originale et très, il y a de la lourdeur aussi dans ce qu'ils font. D'ailleurs, que je salue par l'occasion. Je salue tout le monde aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a... Je suis content de justement... Parce que c'est... je pense que maintenant, moi, dans mon cas, je trouve que c'est quand même un luxe d'habiter une ville comme Marseille, de pouvoir faire de la musique et d'avoir ses amis à côté, d'avoir tout le monde artistique... à côté, on habite les uns à côté des autres, on se voit pratiquement tous les soirs, il se passe des choses, donc je pense que c'est quand même une chance de la vie, voilà, donc je ne cracherai pas dessus.
Longtemps marginalisé, le rail devient, dans les années 80-90, une musique de jeunesse, d'émancipation et de contestation sociale, portée par des figures comme Cheb Khaled, Cheb Mami, Sheikh Rimiti ou Rachid Tar. En décembre 2022, l'UNESCO a inscrit le rail au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette reconnaissance consacre une musique qui, au-delà de ses sonorités, porte une mémoire collective, des luttes sociales, une énergie de vie, une capacité à relier les peuples à travers des émotions universelles.
Moi, il me semble que tu as, dans ta vie, tu as croisé un autre immense artiste qui est Rachid Tar.
Oui.
Tu étais proche de Rachid ?
Assez proche, c'est un mot, vous savez, on ne vient pas de la même génération et j'ai pas, quand on dit proche, peut-être il y a des gens qui sont beaucoup plus proches. D'ailleurs, à Marseille, je pense que la personne la plus proche de Rachid, c'est bien Hakim. Bien sûr, Hakim, le joueur de mandol, l'accompagnateur de...
Hakim Amadouche.
Amadouche, bien sûr, le grand Hakim Amadouche, le grand artiste Hakim Amadouche. Donc, je ne peux pas me targuer de dire, voilà, j'étais l'ami proche de... Mais oui, j'ai connu Rachid Taha à Paris avec Sofiane Saïdi, d'ailleurs on l'a connu dans la même période, ensemble. Et on a partagé de longues soirées interminables... On se voyait pratiquement tout le temps, Et j'ai assisté à... Moi, je suis rentré en Algérie en 2015, comme je t'ai expliqué. Et je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'était en, en 2000, fin 2015 ou 2016. J'ai raté son concert quand il est venu à Marseille.
J'y étais.
Voilà, j'ai raté son concert. J'habitais pas encore à Marseille, mais je venais souvent. J'ai raté son concert et je l'ai revu dans un cercueil quand il est arrivé à Oran pour assister à l'enterrement. Voilà. C'était pour la récupération du corps. Ouais. C'était un grand artiste. Mais Rachid Taha, je l'ai connu musicalement avant, je dis bien avant, beaucoup d'artistes, parce que je pense que je l'ai écouté avant les autres. Je l'ai vraiment écouté. D'ailleurs, je me rappelle ça, un jour, j'étais avec Sofiane et on était dans un endroit qu'on fréquentait ensemble, notamment avec Rachid Taha. Et après quelques verres, moi j'ai pris la guitare et j'ai joué un ancien morceau qui n'est pas du tout connu de Rachid Taha et qui n'est même pas enregistré, je pense. C'est un morceau qu'il chantait avec carte de séjour. Il s'appelle Ntabafé la moda, je suis la mode, Ntabafé la moda, Hayati Mahrouda. Il parle un peu du malheur des Maghrébins dans le temps avant la marche des beurs, qui se teignaient les cheveux en blanc pour arriver à être acceptés dans des boîtes de nuit. Voilà, il a fait un morceau sur ça, il me plaisait parce qu'il était très rock le morceau et les paroles, c'était très touchant. Il dit je travaille, qui j'ai samedi ou qui j'ai sept, il faut que je mette les cheveux pour qu'il me prenne pour un gaouri, pour un français. Et je lui ai chanté ça. Il ne s'est pas arrêté la soirée, ça l'a rendu triste. Il m'a dit comment tu connais ce morceau? Je me rappelle ça. Comment tu connais ce morceau?
Minouche, ma minouche, pourquoi tu te fâches? Ne prends pas la mouche, ma jolie peau de vache. Quand la foudre te touche, rien t'échauffe pour une escarmouche. La colère te fauche. Minouche, donne-moi ta bouche, la plus belle de toutes les bouches. Minouche, sois pas farouche, t'es ma carlouche, française de souche. Ton apache, le reste on s'en fiche. À quoi bon le clash si personne ne triche? J'aime le rouge qui tâche quand il sort de ta bouche, la jolie ganache.
L'émission va toucher à sa fin. Merci pour ce voyage. Ouais, ce voyage à travers la musique. Moi, tu m'as fait voyager dans la planète, enfin, planète rail, pardon, si je puis dire. Voilà, c'est une magnifique histoire de Sidi Bel Abbès, Ahmed Zerghi, ton histoire. L'histoire de la musique, du rail, Marseille, bien évidemment. Ton mot de fin.
Merci. Mon mot de fin, il s'adresse à toi. Merci à toi. Et je pense que ça me fait plaisir parce que tu as un peu cette... tu as été privé un peu de ton côté algérien malgré toi. L'histoire a fait que tu sois privé de ton côté algérien malgré toi. Donc je pense qu'à travers mes mots, qu'à travers... la chanson, qu'à travers le rat et tout, ça t'a permis quand même de voyager quelque part, ne serait-ce que dans l'esprit, et en souhaitant, en espérant qu'un jour tu feras un vrai voyage et que tu viendras visiter l'Algérie. Alors, qu'on enterra toutes ces histoires douloureuses et qu'on commencera autre chose pour les générations à venir.
chères auditrices, chers auditeurs, avant de nous quitter, j'aimerais adresser un mot tout particulier à celles et ceux qui portent l'Algérie dans leur cœur, sans jamais peut-être l'avoir foulée de leurs pas. À celles et ceux pour qui ce pays est une langue murmurée par les parents, les grands-parents, une odeur de pain chaud dans une cuisine d'enfance, une chanson de raï qui surgit à la radio et serre le cœur sans qu'on sache toujours pourquoi. Vous qui ressentez cette nostalgie sans souvenir, cette tendresse pour une terre imaginée, transmise, rêvée. Peut-être que grâce à la voix de Jamel aujourd'hui, grâce à la mémoire d'Ahmed Zerghi, vous avez entrevu un morceau de cette Algérie-là, celle des artistes, des lutteurs, des poètes, des justiciers de l'âme. Car il n'est pas toujours besoin d'avoir vu un pays pour l'aimer. Parfois, il suffit d'une mélodie, d'un mot, d'un regard pour qu'il s'ancre en nous à jamais. Merci d'avoir été là. À très bientôt pour un nouveau voyage, toujours en musique, toujours en vérité. Sur l'antenne de Fréquence Mistral Marseille, c'était l'émission radio Malou Musique, quand la musique raconte nos vies.